Kalidas, Meghaduta, le nuage messager, traduit par Acier de Pompignan. Séparé de sa bien-aimée par la malédiction du maître, en sévère châtiment d'une négligence, déchu pour un an de sa grandeur, un yaksha habitait les ermitages du mont de Rama, aux eaux sanctifiées par les ablutions de la fille de Janaka, sous l'ombre aimable des arbres de la forêt. Après quelques mois passés sur la montagne, loin de sa jeune épouse, au premier jour du mois d'Ashada, l'amant passionné, dont le poignet amaigri laissait glisser son bracelet d'or, aperçut, embrassant le sommet, un nuage magnifique comme l'éléphant qui, dans ses ébats, s'attaque à la terre d'un talus. Se levant à grand-peine devant celui qui fait naître la fleur du Kétaka, refoulant ses larmes, le serviteur de Dhanapati rêva longuement. À la vue des nuées, la pensée de l'être heureux lui-même se trouble. Que dire de celui qui brûle de se jeter au cou de l'amante lointaine? Le mois des brumes étant donc proche, afin de soutenir la vie de la bien-aimée par de bonnes nouvelles, il conçut le désir de les confier aux nuages. Offrant d'abord à ce visiteur l'hommage de fleurs fraîches du jasmin des sommets, il lui adressa, gracieux, avec d'aimables paroles, un salut de bienvenue. Un nuage n'est qu'un amas de vapeur, de feu, d'eau et de vent. Comment lui confier un message que seul pourrait porter des êtres qui pensent? Dans sa passion, le yaksha n'y prenait pas garde, il lui fit sa requête. Ceux que tourmente l'amour adressent, lamentables, leur prière à tous les êtres, animés ou non. Je te sais né de la race fameuse des Pushkara et des Avartaka. Tu es le ministre aux formes changeantes de Maghavan. Éloigné donc par la volonté du destin de celle qui m'est chère, je viens t'implorer. Mieux vaut prier en vain un être noble qu'être exaucé par un vilain. Tu es le secours de celui qu'un tourment consume. Prends donc, ô dispensateur de la pluie, un message pour ma bien-aimée dont me sépare la colère de Dhanapati. Tu iras à la ville d'Alaka, séjour des princes des Yakshas. Dans les jardins qui l'entourent se tient Shiva, et les palais ruissellent de la clarté de la lune qui part le front du dieu. Quand tu passeras sur la route des vents, les femmes des voyageurs relevant leurs boucles te regarderont confiantes et rassurées. Qui donc, lorsque tu es ainsi en marche, négligerait son épouse que la séparation accable, s'il n'est, comme moi, soumis à une volonté étrangère? Embrasse pour lui dire adieu ce mont élevé, ton ami très cher, qui porte sur ses pentes la marque que les hommes vénèrent des pieds de Raghupati. Chaque fois que tu le rejoins, son affection paraît aux larmes brûlantes qu'il répand après la longue séparation. Tandis que le vent favorable t'entraîne doucement, ce coucou avide d'eau fait entendre à ta gauche sa voix agréable, et les grues dont tu charmes les yeux, sûres maintenant d'être fécondées, viendront former dans les airs des guirlandes en ton honneur. Ta route parcourue sans obstacle, tu ne manqueras pas de trouver en vie, occupée à compter les jours, l'épouse fidèle de ton frère. Dans l'absence d'ordinaire, le lien de l'espérance retient le cœur des femmes prêtes à défaillir, telle une toile d'araignée la fleur qui va tomber. Les oreilles charmées par tes grondements qui fécondent la terre et la font se couvrir de champignons, les cygnes royaux auront hâte de retrouver le lac Manasa. Emportant pour viatique quelques fragments de lotus, ils te rejoindront pour t'accompagner dans les airs jusqu'au mont Kailasa. Écoute maintenant, ô nuage, que je t'explique le chemin qu'il te convient de suivre. Tu prêteras ensuite à mon message ton oreille attentive. Je vais te dire les sommets où, brisé de fatigue, tu iras te poser, les rivières dont, amaigri, tu boiras l'eau légère. Le vent emporterait-il le sommet de la montagne, vont se demander dans leur simplicité, te voyant prendre ton élan les épouses des Cydas, levant une tête inquiète. Quitte cette place que couvre le roseau plein de sève et vole dans les airs vers le nord, évitant en chemin les rudes contacts de la trompe des éléphants qui gardent les points cardinaux. Splendide mélange des feux de toutes les pierreries, s'élève du sommet de la fourmilière devant nous ce fragment de l'arc d'Indra. Il prêtera à ton corps sombre un charme incomparable, comme la plume éclatante du paon à celui de Vishnu sous le vêtement d'un bouvier. C'est de toi que dépend la moisson, diront les villageoises, te buvant de leurs yeux humides d'amour, ignorant du jeu des sourcils. Féconde donc d'un peu de ta pluie la terre de Mala, odorante du passage tout récent de la charrue, puis infléchis ta route vers le nord. Quand de tes averses tu auras apaisé l'incendie de ces forêts, le mont Amrakuta en toute justice te prendra, fatigué de ta route, sur sa tête. L'homme vil lui-même, considérant le bienfait autrefois reçu, ne détourne pas les yeux quand un ami vient lui demander asile. Comment pourrait le faire un être si élevé? Ses pentes sont couvertes de manguiers des bois dont brillent les fruits mûrs. Lorsque, sombre comme une tresse imprégnée d'onguents, tu parviendras à son sommet, la montagne, noire en son milieu, jaune partout ailleurs, tel un sein de la terre, sera sans doute pour les couples d'immortels un spectacle digne d'attention. Après un court repos sur la montagne, où les femmes des habitants des bois se plaisent dans les fourrés, et plus rapide d'avoir répandu ton eau, poursuivant ta route, tu apercevras, divisé en bras par les rochers au pied des monts Vindhya, la Reva semblable aux rayures variées dont on parle corps d'un éléphant. L'eau de cette rivière est pénétrée de l'âcre parfum des tombes des éléphants sauvages et s'écoule ralentie à travers les bois épais de pommiers roses. Puise-la, après que tu auras versé ta pluie. Quand tu seras plein de suc, ô nuage, le vent ne pourra égaler ta force. Celui qui est vide est léger, la plénitude donne du poids. Regardant l'anneau clé jaune-orange aux étamines à demi déroulées et les candali qui montrent leurs premiers boutons au bord des marais, tandis qu'elles respirent la délicieuse odeur de la terre dans les forêts brûlées, les antilopes marqueront le chemin que tu suis, ô dispensateur des gouttes d'eau. Je le prévois, ami, malgré ton désir d'aller vite en faveur de ma bien-aimée, tu perdras du temps sur toutes ces collines que parfume le jasmin. Accueilli par les paons aux yeux humides, dont les cris sont des souhaits de bienvenue, résous-toi à les quitter sans trop de retard. À ton approche, les Dasharnas verront les haies de leur jardin blanchir de Ketaka dont s'ouvrent les boutons. Les sanctuaires de leur village se remplirent d'oiseaux nourris des offrandes domestiques, occupés à construire leur nid. Le reflet bleuâtre des fruits mûrs marquait les bois de pommiers roses et s'arrêtait pour quelques jours les cygnes voyageurs. Parvenus dans leur ville royale de Vidisha, au nom partout fameux, tu goûteras aussitôt tous les plaisirs de l'amoureux en buvant, comme aux lèvres d'une belle dont les sourcils se froncent, l'eau savoureuse de la Vetravati, aux vagues frémissantes, qui bruit doucement le long de ses rives. Séjourne alors au voisinage pour te reposer, sur la montagne appelée Basse. qui semblera à ton contact se hérisser de ses nœuds clés aux fleurs épanouies. Ces cavernes dont s'exhale le parfum sensuel des courtisanes trahissent la présence de la folle jeunesse des villes. Ta fatigue passée poursuit ta route, arrosant dans les jardins de tes gouttes d'eau nouvelles les boutons en grappe des jasmins nés sur les bords de la Vananadie, répandant un instant ton ombre familière sur le visage des cueilleuses de fleurs qui froissent et fanent, à essuyer la sueur de leurs joues, les lotus de leurs oreilles. Ce sera t'écarter du chemin qu'il te faut suivre vers le nord, mais ne renonce pas à visiter les terrasses des palais d'Ujjayini. Tu perdrais vraiment à n'y pas goûter le charme des yeux au coin mobile des citadines, effrayé par la scintillation de tes guirlandes d'éclairs. Tu rencontreras sur ta route la rivière Nirvindya. Des bandes d'oiseaux bruyants de l'agitation des vagues lui font une ceinture. Serpentant d'une démarche indécise et gracieuse, elle laisse voir son nombril formé d'un tourbillon. Abreuve-toi de son eau et de son amour. La coquetterie des femmes est pour celui qu'elles aiment la première expression de leur désir. Son eau presque tarie, comme réduite à une tresse unique, la rivière, quand tu es loin d'elle, est pâle des feuilles mortes tombées des arbres de ses rives. Par cet état où la met ton absence, elle montre, heureuse amie, quelle est ta bonne fortune. À toi d'employer le moyen de faire cesser sa maigreur. Arrivé au pays des Avanti, où les vieillards dans les villages savent l'histoire d'Udayana, continue vers la ville que j'ai dite, de Vishala aux immenses richesses. Les habitants du ciel revenus sur la terre, quand le fruit de leur vertu s'épuisait, ont apporté avec eux, acquis du restant de leur mérite, ce merveilleux morceau du paradis. Venu des rives de la Cipra, la brise y porte au loin le cri aigu, enivré d'amour, des oiseaux sarassa. Chargée à l'aurore du parfum qu'elle emprunte aux lotus épanouis, elle glisse sur le corps des belles et, telle la prière caressante du bien-aimé, leur fait oublier la fatigue du plaisir. Grossie à travers le grillage des fenêtres, des vapeurs odorantes dont s'imprègnent les chevelures, recevant l'hommage des paons familiers qui dansent joyeux de revoir en toi un ami, tu passeras, fatigué du voyage, la nuit parmi ces palais embaumés de fleurs, au sol marqué du phare dont les belles rougissent leurs pieds. C'est la couleur de la gorge du maître, diront les ganas, divinités inférieures te regardant avec respect. Visite donc la demeure sainte du seigneur des trois mondes, l'époux de Chanda. Dans ses jardins souffle de la Gandhavati une brise chargée du pollen odorant des lotus bleus et qu'imprègne les parfums des jeunes baigneuses ardent à s'ébattre dans la rivière. Arrivé à tout autre moment au sanctuaire de Mahakala, il te faudra cependant, ô nuage, attendre celui où le soleil apparaît à la vue. C'est en faisant entendre à la cérémonie de l'aurore la batterie solennelle de Shiva que tu acquerras tout le mérite de tes roulements de tonnerre discrets. Là, les courtisanes sacrées dont les ceintures résonnent au rythme de leur danse, les mains lassées d'agiter avec grâce les éventails aux manches resplendissants de pierreries, recevront de toi les premières gouttes de pluie, douces à leurs égratignures, et te lanceront des œillades de côté, longues comme une file d'abeilles. Alors, quand Pashupati commencera sa danse, étends-toi horizontal au-dessus de la haute forêt de ses bras dressés. Brillant de la lumière du soir, rouge comme les fleurs fraîches des rosiers de Chine, remplace ainsi pour lui la sanglante dépouille de l'éléphant. D'un œil tranquille, que l'effroi ne troublera plus, Bhavani verra ton acte pieux. Lorsque sur la route royale, des ténèbres à percer d'une pointe viendront arrêter la vue des belles citadines courant la nuit à la demeure de leurs amants, montre-leur le sol à la lueur de tes éclairs, pareil à la trace de l'or sur la pierre de touche. Mais fais taire tes grondements et le bruit de l'averse, elles sont craintives. Tu passeras la nuit sur quelque terrasse où dorment les colombes, avec ton épouse, la foudre, las débat trop prolongé. Au lever du soleil, reprends ta route. Cela ne s'attarde pas qui entreprennent une œuvre pour le service de leurs amis. C'est l'heure où les amants ont à calmer les pleurs des belles offensées. Quitte donc bien vite le chemin de l'astre éclatant. Revenu pour sécher les larmes de la rosée sur le visage de fleurs de la Nalini, sa colère serait grande si tu arrêtais ses rayons. Ton reflet, à tout le moins, aimable de sa nature, pénétrera dans l'onde claire de la rivière Gambira, comme celui de l'être dans un cœur purifié. Ne va donc pas, par trop de sagesse, rendre inutiles ces œillades. Brillante comme la fleur du lotus nocturne, faite des sauts de ces poissons agiles. L'eau est son vêtement sombre, que sa main retient mal et qui s'accroche au roseau. Quand tu l'auras enlevé, mettant à nu les berges, ses hanches, c'est avec peine, ami, que tu t'éloigneras, et d'une démarche alanguie. Lorsqu'une belle découvre ainsi ses formes, qui donc, en ayant connu le charme, est capable de la quitter? Arrosée par toi, la terre vivifiée exhale son parfum, purifiant par son contact la brise fraîche qui mûrit les figues des bois et dont s'abreuvent les éléphants au doux bruissement de leurs trompes. Elle soufflera légère tandis que tu voudras atteindre la montagne dont le nom commence par celui des dieux. C'est là que Skanda a fixé sa demeure. Fais-toi nuage de fleurs pour les répandre sur lui en averses humides de l'eau de la Ganga céleste. Car il est la gloire plus éclatante que le soleil du Seigneur au croissant de lune, versé pour sauver les armées d'Indra dans la bouche d'Agni. La plume au cercle de lumière qu'a laissé tomber le pan du fils du feu, Bhavani, par amour maternel, l'a mise à son oreille à la place du lotus bleu. Fais maintenant danser au grondement du tonnerre, grossi des échos de la montagne, l'oiseau dont les yeux resplendissent sous les feux de la lune de Hara. Ton hommage ainsi rendu au dieu né dans les fourrés de roseaux, marche encore un peu sur la route que t'abandonnent, de peur de tes gouttes d'eau, les siddhas qui vont par couple leur lutte entre les mains. Descends alors pour l'honorer au-dessus de la gloire de Rantideva, née de l'égorgement des filles de Surabhi, et sa forme changée, devenue sur la terre un cours d'eau. Penché pour en puiser l'eau sur la rivière large, mais comme ainsi la distance aux yeux des génies de l'air, tu leur sembleras de loin avec ta couleur ravie aux porteurs de l'arc Charnga, un saphir immense au milieu d'un rang de perles dont la terre serait parée. Quand tu l'auras traversé, cours offrir ton image aux yeux avides des belles de Dashapura. Ils sont habiles au jeu des lianes de leurs sourcils, leurs cils se relevant en font jaillir des éclats sombres et changeants. Ils ont pris leur grâce aux abeilles poursuivant le jasmin qui s'agite. Plonge alors, et de ton ombre glissant à terre, pénètre dans le Brahmavarta, le pays des Kurus, qui témoigne encore des combats des guerriers. C'est là que, de ses flèches acérées innombrables, l'archer carme Gandiva, comme toi, de tes gouttes d'eau les lotus a inondé les têtes des rois. Renonçant au vin, la liqueur aimée, où se reflétaient les yeux de Révati, se détournant du combat par amour familial, le laboureur est allé boire les eaux de la Sarasvati. En les approchant à ton tour, ami, tu obtiendras, toi aussi, la pureté intérieure. Ta couleur seule restera noire. Va de là vers Kanakala, auprès de la fille de Janu, qui, descendue du roi des monts, servit au fils de Sagara d'escalier pour monter au ciel. Elle avait fait se froncer les sourcils de Gauri, car son écume était un sourire moqueur et ses vagues accrochées au croissant de lune, les mains dont elle avait saisi la chevelure de Shambhu. Si, pareil à l'éléphant des dieux, laissant pendre du ciel l'avant de son corps, tu cherches en t'inclinant à boire son eau limpide comme le pur cristal, ton reflet, alors, glissant d'un même cours, la fera charmante comme si elle devançait sa rencontre avec la Yamuna. Parvenue au mont éclatant de neige où elle prend sa source et dont les serres de leurs muscles parfument les rochers, tu te reposeras sur le sommet des fatigues de ta route. Tu sembleras alors magnifique, la terre que soulève de sa corne le taureau du Seigneur aux trois yeux. Quand, poussé par le vent, l'incendie né du frottement des branches des déodars et qui consume de sa flamme les panaches des chamaris, viendra dévaster la montagne, il te faudra, de gouttes d'eau sans nombre, dompter le fléau. Les richesses des êtres nobles servent à secourir ceux qu'atteint l'adversité. Si, là même, furieuse au bruit de tes grondements et par une présomption qui leur ferait se rompre les membres, des charabas veulent t'assaillir dans les airs où tu es hors d'atteinte, disperse-les, moqueurs, d'une averse de grêlons retentissants. Le mépris n'est-il pas le partage de ceux qui s'obstinent à une entreprise vaine? Sur un rocher t'apparaîtra la marque des pieds du Seigneur dont la demi-lune pare le front. Les siddhas sans cesse y apportent leurs offrandes. Pieusement inclinés, faisant le tour. S'ils l'ont vu, les dévots, après la dissolution de leur corps, lavés de leurs péchés, sont admis pour toujours au rang des serviteurs du Dieu. Les bambous qu'emplit le vent font entendre leur doux murmure. Les kinaris charmantes chantent la conquête des trois villes. Si ton grondement profond fait alors, comme un tambourin, résonner les cavernes, ne sera-ce pas là tout un concert en l'honneur du maître des troupeaux? Dépasse les merveilles qui s'offrent le long de la montagne des neiges, et, par la porte des cygnes, le glorieux chemin de Brigupati, la brèche des Krauncha, gagne la région du nord. Allongé pour franchir la passe, tu sembleras magnifique, le pied bleu de Vishnu quand le dieu s'élançait pour triompher de Bali. Allant plus haut encore, sois l'hôte du Kailasa, dont les bras du démon aux dix têtes ont disloqué les cimes assemblées. Il est le miroir des épouses des trente. Remplissant le ciel de ses pics sublimes, blanc comme le lotus des nuits, il se dresse semblant le rire, accumulé de toutes parts, du Seigneur aux trois yeux. Quand, pareil à de l'antimoine broyé dans l'huile, tu parviendras sur les pentes de la montagne, blanche telle une pièce d'ivoire fraîchement taillée. Sa grâce, j'en suis sûr, méritera de fixer les regards comme celle du porteur de soc qui jetterait sur son épaule un manteau sombre. Et si, tenant la main de Chambou, qui a rejeté le serpent, son noir bracelet, Gaouri vient se promener sur ce mont des jeux, dispose ton corps en degrés, et, rendant immobile l'eau que tu renfermes, deviens un escalier dont les marches pour gravir la pente seront douces à ses pieds. Là, certainement les nymphes divines, lorsque, entrées dans leur demeure, tu verseras ton eau, voudront te faire servir à leurs ablutions. Si, t'ayant pris pendant les chaleurs, elles refusent de te laisser partir, effraie-les, ami, au milieu de leurs ébats, de tes grondements qui déchirent les oreilles. Puisant au lac Manassa l'eau dont naissent les lotus d'or, tandis qu'aimable tu couvres par instant d'un voile qu'il apprécie la tête d'Airavana, agitant de tes souffles imprégnés d'eau les vêtements suspendus au Kalpadruma, arbre au souhait. Jouis, ô nuage, de la montagne claire comme le cristal où tu te doubles de ton reflet. Sur ses pentes comme sur les genoux d'un amant, laissant tomber sa tunique brillante, la Ganga, tu ne manqueras pas, voyageur sans contrainte, de reconnaître Alaka. Lorsque la saison arrive, elle porte au faîte de ses palais altiers votre troupe ruisselante, comme sur sa tête une noble belle apaisée, des boucles que retient un réseau de perles. Second chant. La ville a des palais que l'on peut sur plus d'un point te comparer. Tu as tes éclairs. Ils abritent, eux, des femmes vives et gracieuses. Tu portes l'arc d'Indra. Il s'orne de peinture. Le bruit des tambourins y accompagne les chants. Si toi tu fais entendre une voix profonde et douce. Tu renfermes une eau limpide, leur sol est pavé de pierres précieuses, et, si tu t'élèves dans les airs, de leur fête, eux, ils touchent le ciel. Les belles y jouent avec le lotus bleu qu'elles portent à la main, de frais jasmins se mêlent à leurs boucles. Le pollen du rhodra dore la beauté de leur visage. La jeune amarante parle nœud de leurs chignons. On voit à leur oreille la fleur gracieuse de l'acacia, et la raie de leur chevelure s'orne de la noclée qui naît à ton approche. Dans leur palais, sur les terrasses dont le sol de cristal reflète en fleurs l'éclat des étoiles, les yakshas, en compagnie de leurs épouses incomparables, au bruit, pareil à tes grondements, des tambourins lentement frappés y boivent, recueillis, la liqueur enivrante source de volupté que produit l'arbre des souhaits. Les belles, étroitement serrées dans les bras de leurs amants, y sentent se calmer la fatigue du plaisir sous les gouttes d'eau jaillissantes, dont la lune de ces rayons que ton absence laisse briller, faire ruisseler les pierreries magiques qui pendent du dais au-dessus de leur tête. Les nuages, tes pareils, que leur guide toujours en marche amène aux étages supérieurs des palais, endommagent de leur pluie les peintures, puis aussitôt, comme effrayés, s'enfuit en lambeaux à travers les grillages des fenêtres, en se faisant, plein de ruses, semblable à des bouffées de fumée. Les femmes des yakshas voient se défaire le nœud de leur ceinture. Leurs amants, d'une main que l'amour rend hardie, tirent le vêtement lâche. Affolées de honte, elles jettent tout droit sur ces lampes à la haute flamme que sont les pierreries, une poignée de poudre odorante, en vain, même si elle allait au but. les fleurs du mandara tombaient des boucles qu'agitait la course, les lotus d'or aux dispositions diverses détachées des oreilles, les colliers aux fils rompus qui ont pris le parfum des seins chargés de perles, marquent, quand le soleil se lève, la route des amoureuses au cours de la nuit. Sachant bien que le dieu ami de Kubera habite en personne la ville, l'amour, plein de crainte, ne porte plus d'ordinaire son arc à la corde formée d'abeilles. Mais l'office en est rempli grâce à la coquetterie des belles, adroites qu'elles sont à décocher sur les amants, de leurs yeux dont les sourcils se courbent, des traits qui ne manquent pas le but. Au nord des palais de Dhanapati, tu apercevras notre demeure, de loin reconnaissable à son portail, gracieux comme l'arc d'Indra. Tout auprès, élevé par ma bien-aimée, un jeune Mandara, son fils adoptif, penche ses grappes de fleurs à la portée de la main. Tu verras aussi un long étang où descendent des degrés d'émeraude, couverts des boutons du lotus d'or, dont les tiges sont faites de lapis-lazuli qui brille. Les cygnes qui habitent ces eaux n'ont aucun souci, et, même en t'apercevant, ils ne songeront pas au lac Manasa, pourtant proche. Sur la rive s'élève un monticule factice, à la cime faite de beaux saphirs, et que pare une ceinture de bananiers dorés. Quand je te vois, ami, bordé de la lueur de tes éclairs, il revient à ma pensée troublée, et je songe qu'il est cher à la maîtresse de ma maison. Un Ashoka flamboyant, un gracieux Kessara au rameau qui palpite, s'y dresse auprès de la tonnelle de Madhavi qu'entoure une haie d'amarante. Prétextant tous deux une envie de fleurir, comme moi, l'un réclame le pied gauche de ton ami, l'autre désire le nectar de sa bouche. Entre les deux, sur une tablette de cristal, tu verras un perchoir d'or, aux pieds cerclés de gemmes dont la couleur est celle des jeunes bambous. À la fin du jour, l'oiseau au cou d'azur, votre ami, vient s'y poser, après que ma bien-aimée, frappant dans ses mains, l'a fait danser au doux tintement de ses bracelets. À ces signes, sage ami, gravés dans ton esprit, à la vue aussi de la conque et du lotus, dont l'image est tracée de part et d'autre de la porte, tu pourras reconnaître ma maison, en mon absence, à présent, certes déchue de sa splendeur. Quand le soleil a disparu, le lotus de jour n'étale plus sa beauté. Posé sur le monticule au gracieux sommet que je t'ai dit, réduis aussitôt pour t'approcher plus rapide ta taille à celle d'un jeune éléphant. Tu pourras alors, d'un de tes éclairs, mais pâle, bien pâle, telle la lueur d'un essaim de luciole, jeter un regard dans l'intérieur du palais. Une femme en pleine jeunesse est là, svelte, aux dents aiguës, à la lèvre telle une cerise mûre, à la taille mince, aux yeux de gazelle inquiète, au nombril profond. Le poids de sa croupe alanguit sa démarche, ses seins l'obligent à s'incliner un peu. Entre toutes les jeunes belles, c'est le chef-d'œuvre du Créateur. Reconnais en elle celle qui est ma vie. Ses paroles sont rares. Loin de moi, son compagnon, elle reste solitaire comme l'oiseau fidèle. La tristesse profonde de la séparation, au cours de ces jours pesants déjà écoulés, là, je le crains, bien changé, tel l'hiver flétrit la fleur du lotus. Les larmes abondantes ont sans doute gonflé ses yeux. Les continuels soupirs brûlants décoloraient sa lèvre, et son visage qu'elle appuie sur sa main à demi cachée par ses boucles pendantes, à la tristesse de la lune dont ta présence offusque la clarté. Elle s'offrira à tes regards occupés à de pieuses offrandes. Ou bien, peignant mon image qu'elle se représente amaigrie par l'absence, peut-être interrogeant la merlette en cage à la douce voix, te souvient-il de notre maître mignonne, il t'aimait. Peut-être, ami, posant son luth sur ses genoux, couvert d'un vêtement sans éclat, voudra-t-elle entonner un chant où les mots s'ordonnent pour former mon nom, attaquant à grand-peine les cordes mouillées de ses larmes, elle oublie et oublie encore la gamme qu'elle-même a choisie. Peut-être aussi, pour les calculer, représentera-t-elle à terre avec les fleurs amassées sur le seuil les mois qui restent du temps fixé au jour de mon départ. Ou encore goûtera-t-elle par avance les plaisirs qu'elle se promet dans son cœur pour le moment de notre réunion. Ce sont là, d'ordinaire, les passe-temps d'une belle éloignée de son amant. Ses cheveux qu'au premier jour de notre séparation elle a rassemblés, rejetant son diadème, et que, la malédiction prenant fin, je dois délivrer de mes peines, défaire moi-même, elle en écarte à présent de ses joues la tresse unique, rude, irrégulière, qu'elle froisse continuellement d'une main aux ongles non coupés. Parmi ses occupations, mon absence le jour doit lui être moins dure. La nuit, je pense, son chagrin s'accroît par l'oisiveté. Au milieu de la nuit, donc, te tenant à la fenêtre proche de sa couche sur le sol, vois à consoler par mon message cette épouse fidèle que fuit le sommeil. Amaigrie, étendue de côté sur sa couche solitaire, elle semble le corps de l'astre au froid rayon, dont il ne reste qu'un mince croissant à l'horizon oriental. Elle voudrait évoquer le plaisir de s'unir à moi, fût-ce en songe, et cherche le sommeil que des torrents de larmes bannissent de ses yeux. Avec des soupirs qui flétrissent les tendres boutons de ses lèvres de fleurs, elle rejette les boucles raidies par l'eau toute pure qui pendent sur ses joues. Cette nuit qui, dans les plaisirs à mes côtés, s'écoulait en un instant, elle en passe maintenant dans les larmes brûlantes, la durée que l'absence accroît. Les rayons de la lune, frais comme le nectar, pénètrent par le grillage de la fenêtre. Elle tourne vers eux, tout d'abord avec joie, mais pour le détourner aussitôt un œil qu'elle cache, fatigué, sous des cils lourds de ses larmes. Elle ne dort ni ne veille, telle la fleur de l'hibiscus par un jour nuageux. Je sais le cœur de la bien-aimée plein d'amour pour moi, et je la crois, dans cette première séparation, telle que je viens de te la montrer. La fatuité ne grandit pas mes paroles, ô mon frère. Tu verras bientôt toi-même tout ce que je te dis. Sans force, dans l'excès de sa douleur, elle laisse à tout instant tomber au fond de sa couche son corps délicat, privé de toute parure. À coup sûr, elle te fera verser même à toi des pleurs qui seront faits de ton eau nouvelle. D'ordinaire sont pitoyables ceux dont le cœur est tendre. Son œil de gazelle voile sous les boucles ses regards de côté. Le phare n'y brille plus. Et, maintenant qu'elle repousse le vin, il a oublié la manœuvre des sourcils. À ton approche, sans doute, il frémira tout à coup, gracieux comme le lotus nocturne qui s'agite, heurté par un poisson. Sa cuisse gauche peut-être aussi palpitera, dorée comme le tronc plein de sève du bananier. Mes ongles, à présent, n'y impriment plus leurs traces. Et là, par la volonté du destin, perdu l'habituelle parure de ces réseaux de perles, et ne sent plus, comme jadis à la fin de notre union, la caresse accoutumée de ma main. Si toutefois, ô nuage, la très chère goûtait alors la douceur du sommeil, reste patiemment auprès d'elle, sans faire entendre tes grondements, la durée d'une veille. Peut-être me tient-elle en songe, moi, son amant, étroitement serré dans le nœud de ses bras de liane. Garde-toi de le faire brusquement tomber de mon cou. L'ayant réveillé d'un souffle que rafraîchissent tes gouttes d'eau, après que l'aura ranimait le parfum des jeunes boutons du jasmin, cachant tes éclairs, adresse la parole grave de ton tonnerre à cette belle si sage dont les yeux se fixent sur la fenêtre étroite où tu te tiens. Tu n'es pas veuve, je suis un nuage, ami cher de ton époux, qui vient à toi sur sa prière gravée dans mon cœur. C'est moi dont la voix douce et profonde fait se hâter sur la route les troupes fatiguées des voyageurs, anxieux d'aller dénouer les tresses de leurs épouses. À ces mots, elle lèvera la tête pour te regarder, le cœur soupirant après l'absent, comme la princesse de Mithila regardait le fils de Pavana, et t'ayant salué, elle écoutera attentive la suite de ton discours. Pour les femmes, vois-tu, très chères, les nouvelles du bien-aimé apportées par un ami sont un peu comme sa présence elle-même. De ma part, pour ta satisfaction aussi, tu lui parleras alors de la sorte. Ton compagnon dans l'ermitage du mont de Rama est en vie. Séparé de toi, ô gracieuse, il s'informe de ta santé. C'est la santé qu'il faut souhaiter d'abord aux êtres vivants que le malheur peut si facilement atteindre. Loin de toi, sa route barrée par le destin ennemi, il unit dans ses ardeurs son corps à ton corps. Celui-ci est amaigri, le sien l'est davantage. Le premier se consume si l'autre brûle. À l'un les pleurs, à l'autre le torrent des larmes. D'un côté des regrets, de l'autre les regrets sans trêve. Aux soupirs brûlants répondent des soupirs plus profonds encore. C'est de vive voix devant tes compagnes, mais à ton oreille pour sentir le contact de ton visage, qu'il eût voulu te faire ce discours rempli de son impatient désir. Trop loin pour se faire entendre, inaccessible à tes yeux, il te l'adresse par ma bouche. Écoute. Je reconnais dans la liane ton corps, ton regard dans les yeux de la gazelle craintive, la beauté de ton visage dans celui de la lune, ta chevelure dans le plumage pesant des pans, et, dans les rides légères des cours d'eau, le jeu de tes sourcils. Hélas, ami timide, à lui seul aucun objet ne suffit à te ressembler. Avec des couleurs empruntées à la terre, je veux te peindre sur le rocher, saisi d'une colère amoureuse, tandis que je tombe à tes pieds. Voici qu'à tout instant les larmes se pressent troublant ma vue, le cruel destin là même encore s'oppose à notre réunion. Dans les visions de mon sommeil tu m'apparais jetant les bras dans le vide, m'efforçant de te saisir d'une étreinte passionnée. Les divinités du terroir bien souvent ne peuvent à cette vue retenir des larmes qui, lourdes comme des perles, tombe sur les branches des arbres. Ces brises venues des montagnes neigeuses ont fait brusquement éclater les bourgeons sur les rameaux des déodars et courent vers le sud, odorantes de la résine écoulée. Je leur ouvre mes bras, vertueuse épouse. si seulement elles avaient frôlé ton corps. Comment donc la nuit aux trois longues veilles se réduirait-elle à un instant? Comment la chaleur du jour en toute saison serait-elle douce à supporter? C'est ainsi belle aux yeux vifs que mon cœur conçoit d'impossibles désirs, sans défense contre la douleur profonde et brûlante de la séparation. Est-ce que moi-même pourtant je ne soutiens pas ma vie par une foule de projets? Ne te laisse donc pas, ma toute belle, trop aller au découragement. À qui le bonheur arrive-t-il sans fin ou le malheur sans trêve? Notre fortune tour à tour s'abaisse et s'élève comme la jambe d'une roue. La malédiction qui m'accable aura son terme quand le porteur de l'arc Charnga se lèvera de la couche que lui forme le serpent. Ferme tes yeux les 4 mois qui restent. Après, au cours des nuits éclairées par la lune de l'automne finissant, nous satisferons tous nos désirs que l'absence aura multipliés. Il te dit encore, une fois tu t'étais endormi sur notre couche, les bras autour de mon cou. Réveillé, je ne savais pourquoi, tu pleurais bien fort, et, sur mes questions répétées, tu m'as dit avec un sourire, perfide, je t'ai vu en songe qui en aimais une autre. Par ce signe de reconnaissance, apprends donc que je suis sain et sauf. Ne laisse pas, ami aux yeux noirs, les discours du monde troubler ta confiance en moi. Les sentiments, dit-on, succombent d'ordinaire à l'absence. Mais non, les désirs insatisfaits grandissent l'attrait de l'objet qu'on aime et deviennent de l'amour accumulé. Vas-tu, ami, me rendre ce service fraternel? Ton silence, certes, ne me semble pas un refus. C'est sans un mot que tu dispenses au Tchataka les gouttes d'eau qu'il réclame. La réponse des grands cœurs à une prière est d'accomplir ce qui leur est demandé. Ayant donc exaucé, ô nuage, dans la bonté de ton cœur ou par pitié de ma solitude, ma prière insolite, gagne les contrées objets de tes désirs, ta beauté accrue par la saison des pluies, et puisses-tu n'être jamais, ne fût-ce qu'un instant, ainsi séparé de ton épouse, la foudre.